RCF, les grands entretiens d'Éric Rouillet.
Alain Meunier, bonjour.
Bonjour Éric Rouillet.
Bienvenue dans nos grands entretiens sur RCF.
Merci de cette invitation.
Vous siégez sur le fauteuil du professeur Magnard.
Ça, déjà, vous commencez par m'impressionner très fortement.
En fait, Pierre Magnard a été le premier à initier, à inaugurer cette série des grands entretiens. C'est pour ça que je vous précise, parce que je sais que vous connaissez.
Oui.
Vous êtes violoncelliste, Alain Meunier. Vous avez commencé le violoncelle à l'âge de 7 ans. Vous êtes rentré au Conservatoire National de Musique et de Danse de Paris en octobre 1955. Et je précise, dans la salle de Maurice Maréchal. Vous avez un prix de musique de chambre en 1958, un prix de violoncelle en 1959, un premier prix en classe professionnelle de musique de chambre en 1960, en duo avec Christian Ivaldi, un premier prix d'esthétique musicale en 1962, et vous vous produisez ensuite chez Pablo Casals. Permettez-moi, pour démarrer cette émission, de vous demander de rendre un petit hommage à Maurice Maréchal, mobilisé au tout début de la Première Guerre mondiale, pour lequel des menuisiers ont fabriqué un instrument, un violoncelle avec le bois d'une caisse à munitions, afin qu'il joue pour les soldats au front, et notamment avec André Caplet, à qui nous avons consacré une émission. Au-delà de ce qu'a pu vous apporter Maurice Maréchal comme professeur de violoncelle, je suppose que son plus grand héritage auprès de vous reste sa dimension humaine, et en quoi cette dimension humaine a pu vous imprégner profondément, et peut-être plus que ses leçons de violoncelle.
Alors, rendre un hommage à Maurice Maréchal est la chose la plus spontanée et qui m'honore et qui me fait un plaisir immense. C'était un homme à l'humanité bien trempée, qui était d'une discrétion infinie, et qui était une sorte de héros du quotidien et qui ne le faisait jamais savoir. Et son art de musicien et de violoncelliste est à l'unité, à l'unisson avec sa façon d'être homme. C'est sans doute le plus beau son de violoncelle que j'ai jamais entendu, le phrasé le plus naturel qui soit. Et hier soir, justement, à une soirée anniversaire des concerts de poche, nous étions Marc Coppet et moi en train de parler. Il n'a pas du tout été son élève, mais il reconnaissait que c'était le violoncelliste le plus important peut-être du XXe siècle. Et je partage cet avis, bien qu'il ait fait une carrière un peu dans l'ombre, et surtout entre les deux guerres, il a son prix. Il sort du conservatoire, il est déjà auréolé d'un prestige naissant. Paf, 7 ans sous les drapeaux entre le service militaire et la guerre de 14. Il en sort fortement ébranlé. Ayant continué à jouer, entre autres avec André Caplet, avec Durosoir, avec un certain nombre de musiciens, il faisait du quatuor, du quintet, mais en même temps il était agent de liaison à bicyclette, il était aussi téléphoniste, et c'est-à-dire qu'il faisait partie de ces musiciens que l'on mettait au déchiffrement des messages secrets, parce qu'on pensait qu'ils avaient une oreille plus affinée que celle de tout un chacun, ce qui est vrai, a priori. Et donc, ils étaient mieux à même de déchiffrer les messages.
Je me permets de continuer votre description de Maurice Maréchal, que vous faites avec beaucoup d'émotion, parce que j'écoutais il y a peu de temps le concerto pour violoncelle d'Édouard Lalo, qu'il interprétait avec Philippe Gobert comme chef d'orchestre. Et en fait, il n'y avait pas de son, il n'y avait que de l'émotion, il y avait une profondeur. Mais c'était presque de la musique silencieuse par rapport à aujourd'hui. C'est une autre époque.
C'était pas l'homme du faire-valoir, c'était pas l'homme de l'image. Il avait cette phrase qui disait avec un gentil sourire, « Oh, vous savez, je ne suis pas snob. Non, je ne suis pas snob. » Mais il était d'une richesse, d'une humanité extraordinaire. Et puis je vous dis, ce son, cette patte sonore, alors que c'est l'époque où on faisait pratiquement un glissando entre chaque note, mais c'est fait avec un tel goût, c'est fait avec un tel art que bien malin celui qui se risquerait à essayer de l'imiter.
On va pas trop s'éterniser sur cette anecdote de son violoncelle dit le poilu, qui est quand même une histoire extraordinaire.
Ah, c'est une histoire extraordinaire. D'abord, voilà, des charpentiers qui décident de fabriquer un instrument. Alors, je crois qu'il y a du bois de caisse de munitions allemande aussi, c'est l'ironie du sort. Et on lui fabrique cette caisse à musique. Et que le jeune Alain Meunier, allant prendre sa leçon chez le maître rue Fraissinet, dans le 16e arrondissement de Paris, eh bien, à chaque fois, je voyais ce violoncelle qui tenait en équilibre dans le coin droit de la cheminée du salon. Et c'était pour nous un objet absolument mystérieux que nous n'avons jamais entendu, il ne l'a jamais pris, il ne l'a jamais joué, il en parlait peu. Voilà. Mais cet objet reste pour moi absolument mythique, lié à cet homme et lié à la discrétion de cet homme. C'est vrai que j'étais un peu étonné quand d'un seul coup on s'est mis à refaire à faire copie de cet instrument qui ne pouvait être qu'unique.
Et alors, est-ce que en faire une réplique par un luthier et jouer sur cette réplique n'est pas quelque part quelque chose qui trahit la mémoire de Maurice Maréchal, parce que lui qui a toujours voulu, qui est resté pudique, silencieux, et qui voulait surtout pas qu'on se serve d'une certaine période de sa vie. Oui, aujourd'hui, on connaît peut-être plus d'histoire de violoncelle que ce qui est vraiment le Maurice Maréchal.
Alors, loin de moi l'idée d'un jugement quant à la nécessité qu'ont pu éprouver certains de faire renaître cet instrument, qui par ailleurs était bien malmené parce qu'il est planqué dans des réserves du musée de la musique et c'est bien désolant. Il suffirait de 3 sous pour le remettre en état et qu'il soit dans une belle vitrine visible par tout le monde. Mais enfin bref, loin de moi l'idée d'avoir la moindre critique quant à cette idée de vouloir le faire revivre. Mais si on m'avait demandé de le faire, je n'aurais pas su être celui qui pouvait le jouer.
On peut déplorer que des violoncellistes puissent faire la communication à bon compte sur cette mémoire et avoir un petit peu une attitude d'usurpateur. Voilà, je...
Ou alors ma nature...
Oui, je sais.
Ma nature, pas généreuse, mais enfin comme ça, qui cherche l'équité. La personne qui s'est occupée de ce projet est une personne à la qualité humaine aussi vraiment certaine, et donc n'a pu le faire qu'avec un geste d'enthousiasme et de volonté de faire partager quelque chose d'émouvant. Voilà. J'aurais pas su faire ça. D'autres l'ont fait.
Je reconnais votre élégance dans cette réponse. Et puisque nous parlons d'élégance, vous m'aviez indiqué, voilà quelques années, que vous aviez la faculté de supprimer les questions parfois inintéressantes, voire laborieuses, des journalistes avec votre bienveillance et une aptitude à les valoriser à travers des réponses d'une pertinence supérieure. Est-ce toujours le cas ?
C'est pas à moi d'en décider. C'est pas à moi d'en décider. Écoutez, c'est une émission publique, donc les auditeurs jugeront.
J'ai une question que m'a posée un enfant de 8 ans, il y a peu de temps, pour laquelle je n'avais pas de réponse. Je lui ai promis que vous pourriez lui apporter des réponses. Il m'a demandé à quoi ressemble un violoncelliste.
À quoi ressemble ? Alors, à toute personne née un beau jour d'une année X et qui a décidé de jouer du violoncelle. Donc, la ressemblance est multiforme. Nous sommes nombreux à être violoncellistes, nous sommes nombreux à ressembler à des choses différentes. Ce qui nous unit, c'est qu'on joue d'un instrument à 4 cordes, sol, do, sol, ré, la, et que chacun en joue à sa façon. Mais c'est, alors, qu'est-ce qui pourrait faire ressembler un violoncelliste à un autre violoncelliste ? C'est l'instrument, au fond. C'est l'héritage commun, c'est l'instrument, c'est pas la personne. Peut-être le violoncelle modèle la personne, ça c'est pas impossible non plus. Il y a quand même des grands traits de violoniste, des grands traits de flûtiste, des grands traits de pianiste, des grands traits de violoncelliste. Nous avons entre le monde et nous, c'est ce gros instrument qui tient les êtres et les choses à distance un petit peu. Et puis c'est un instrument un peu résonneur, c'est celui qui donne la basse, c'est celui qui donne la base d'un édifice musical dans l'ensemble. Ça nous permet peut-être d'être un petit peu moins immédiatement concernés par l'idée de conflit, l'idée de dépasser, l'idée de... Au demain, il ne faut pas se leurrer sur notre capacité à être des hommes justes.
Alors écoutez, vous parlez d'idées, et je vais me permettre une petite indiscrétion. Puisque vous m'avez écrit, il y a quelques années, qu'il était plus facile d'avoir de la suite dans les idées que de mettre des idées dans les suites. Est-ce que vous pouvez développer ?
Alors, je ne sais pas si je peux développer, mais je confirme. Mettre des idées dans les suites. Alors, je renverserai la problématique. Je ne crois pas qu'on puisse mettre des idées dans les suites. On peut toujours en mettre, d'ailleurs. On peut toujours mettre de soi partout. Ce n'est pas forcément ce qu'on fait de mieux toujours. Mais en revanche, je crois volontiers que les suites, éventuellement, si on est vraiment à l'écoute, pourraient nous donner des idées. Et c'est peut-être leur plus grand prix, c'est de pouvoir nous donner des idées si on a la modestie de se mettre à l'écoute en pensant qu'on ne sait rien d'elles. Et qu'elles vont nous apprendre ce qu'elles pourraient devenir. Les suites de Bach, bien sûr.
La question que je vais vous poser est une question qui est intelligente.
Sûrement.
Est-ce qu'on peut demander si Bach vous a rendu service en composant ses suites pour violoncelle ? Est-ce qu'il n'a pas mis un terme à quelque chose, en initiant quelque chose ? Est-ce qu'il n'a pas transformé derrière toute l'histoire de la musique ? Qu'est-ce qu'il a apporté ? Puisqu'après, finalement, il n'y a pas vraiment de grande référence. Il y a eu une sorte d'impasse. Est-ce qu'il n'a pas creusé une impasse? Qu'est-ce qu'il vous a offert? Parce que c'est quand même une question à se poser.
Alors, c'est peut-être une question à se poser. Alors, peut-être, comme nous, moi, en tant que violoncelliste, je me dois d'avancer. Peut-être il y a des questions qu'il ne faut pas que je me pose. Et peut-être, entre autres, celle-ci. Alors, ce qui est formidable avec Bach, c'est qu'on a quand même le sentiment d'un sommet d'équilibre. Alors, vous me direz les sommets. Après le sommet, il y a la descente. Mais je ne crois pas non plus à ces versions. Après la descente, il y a toujours une remontée. Donc, la vie est faite ainsi. Il y a des pics, il y a des vallées, et puis il y a des repiques, etc. Les suites, qu'est-ce qu'elles ne peuvent que nous apporter, les suites. Je veux dire, si on a le bonheur de jouer du violoncelle, ou du violon avec les sonates et partitas, ou de n'importe quel instrument d'ailleurs. Parce qu'on pourrait très bien imaginer les suites pour violoncelle à l'accordéon ou à la guitare, ou ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Elle nous apporte la capacité d'entrer en nous-mêmes, elle nous apporte la capacité de savoir écouter ce qui se joue du monde en fait. Parce que quand on est seul devant ces monuments, il faut bien donner une réponse. Et cette réponse, c'est une interrogation permanente. Enfin, la suite nous interroge en permanence. Comment va-t-on les jouer? Même si on ne sait pas qu'on se pose la question. Parce qu'en fait, on les joue, on essaye, donc on donne des réponses. Et à partir de cette réponse, est-elle pertinente? Est-elle impertinente? A-t-elle un bien fondé? Donc ces suites nous interrogent, ces suites nous font vivre. C'est comme d'ailleurs, en général, la chance d'être musicien, c'est que j'aurais passé ma vie à faire un travail que j'aime, en vivre convenablement, et j'aurais passé ma vie dans cet émerveillement de ce que nous offre la musique. C'est une façon de répondre à vos questions. Les suites m'offrent constamment de l'émerveillement, de la peine aussi, parce que je me dis, mais tu joues ça comme un cochon. Bon, ça arrive aussi. Puis quelquefois, on est assez content. Mais voilà, ça va, ça vient.
Je vais vous poser une question au sujet des suites un peu différente, qui va vous amener à me répondre de façon également différente. Aujourd'hui, on dévisse, on déboulonne, on déconstruit, pour reprendre un terme à la mode, et utiliser un peu n'importe comment. En fait, on renie jusqu'à notre propre langue avec le langage inclusif. À quand une partition inclusive qui condamnerait les suites de Bach parce que représentative d'un protestantisme, du chrétienté, d'une spiritualité, d'une pensée devenue délictuelle et honteusement condamnable par rapport à une époque qu'il faudrait brûler, puisqu'aujourd'hui on brûle tout. Faudra-t-il un jour se cacher pour jouer ses œuvres et ne pas se poser la question, n'est-il pas une erreur?
Alors moi je ne suis pas du tout dans ce trip-là. L'idée c'est déconstruire n'a pas beaucoup de sens. Ou alors peut-être si j'ai moi-même, faisant de la prose sans le savoir comme M. Jourdain, j'ai moi-même déconstruit tout ce que j'avais appris au conservatoire de ce fameux maître que je continue de respecter 70 ans après l'avoir connu et l'avoir rencontré. Et je ne joue absolument pas les suites comme on me les a apprises au conservatoire. Et je trouverais insupportable de les entendre aujourd'hui comme on me les a apprises. Enfin, peu, j'ai pas envie. Donc, j'ai fait de la déconstruction, moi aussi, finalement, et de façon très consciente. Et je pense que la force de cette musique, c'est pas non plus de se dire « Bon baiser de Cöthen, 18 juillet 1723 ». Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. La force de ces suites, c'est de pouvoir les jouer encore en 2022 et de pouvoir les jouer en 2050, de pouvoir les jouer en 2070, etc. Et c'est surtout peut-être la plus grande force que chacun d'entre nous doit avoir. C'est de pouvoir résister à l'idée qu'on est en train de faire de l'élitisme. On ne fait pas de l'élitisme, on fait de la musique. Et la musique classique, ce n'est pas l'apanage de l'élitisme, c'est l'apanage du travail, de l'étude, de la réflexion. En fait, c'est l'apanage de son métier d'homme, qu'on peut faire avec n'importe quoi d'autre.
Puisque nous sommes dans la réflexion, dans votre réflexion, vous aviez la charge du quatuor à cordes d'Evian, qui a été transféré à Bordeaux. À cette occasion, et plein d'esprit, vous aviez déclaré « Nous sommes passés de l'eau des sommets au sommet des grands crus ».
C'est vrai. Ça, je maintiens.
Alors, ouais. Alors permettez-moi, maintenant que vous enregistrez au couvent des Jacobins de la maison Louis Jadot et à la Goyotte du domaine de la Romanée-Conti, avant de Romanée, c'est-à-dire en Bourgogne, que pourriez-vous nous proposer comme petite fulgurance qui rétablisse l'actualité?
Alors, une fulgurance, mais quelle nature de fulgurance si c'est une...
Par rapport au sommet des grands crus bordelais?
Par rapport au sommet des grands crus bordelais, je pense que les sommets ne sont pas une réalité géographique et quantifiable en hauteur. Donc, il est évident que du côté de la Bourgogne que vous venez de citer, nous avons des sommets qui sont sans doute inégalés. Je ne sais pas s'ils sont inégalables, mais qui sont des sommets formidables. Et la nature de la Bourgogne est intéressante parce que elle est pleine de sommets. Elle est pleine de sommets. Ce territoire est tellement morcelé, tellement extraordinairement riche en particularités, que c'est peut-être un des plus grands prix de cette Bourgogne. Le territoire bordelais est un territoire vaste, les domaines sont grands, il y a effectivement des merveilles absolues. En plus, moi je suis d'origine girondine, tant par mon père que par ma mère, matinette parisien et de charentais, et donc j'ai une tendresse pour ce territoire. C'est pas pour rien qu'ayant dirigé le concours d'Évian, le concours international de quatuor à cordes d'Évian, au moment où Antoine Riboud, le patron de Danone, m'a dit « Petit, j'étais déjà un adulte confirmé, petit, il faut faire des économies et on arrête le concours », je l'ai emmené à Bordeaux, avec sa bénédiction et une belle lettre pour le maire de l'époque à Bordeaux, qui était Alain Juppé, de façon à ce qu'on comprenne que je n'étais pas un type qui venait en ayant piqué la caisse. Et voilà, je l'ai emmené à Bordeaux et c'était une belle aventure. J'ai passé la main depuis quelques années parce que je pense que les choses pour vivre, il faut savoir les léguer avant qu'elles meurent avec vous. Donc voilà, j'ai passé la main du concours et puis aussi d'un festival que je dirigeais dans le Midi, etc. Je pense que ça, c'est une chose fondamentale de savoir s'en aller à temps.
Mais vous allez encore rester avec nous. Vous avez enregistré il y a peu de temps, il y a quelques années, une intégrale des suites de Bach à la Goyotte, justement, à Vaudremoné, au domaine de la Harmonie Conti. Et Hervé Penven de la revue La Nef écrivait au sujet de ce coffret: l'interprétation d'Alain Meunier est une merveille. Dans le texte de présentation, il insiste sur l'importance du témoignage de Pablo Casals. Le fait est qu'il s'inscrit dans le sillage de Casals, tout en étant fort différent. Forcément, puisqu'il est impossible d'imiter Casals, et que ce n'est pas son propos. De Casals, il a gardé l'importance d'insuffler une vie intense à ses danses. Et il insiste beaucoup sur les danses. Mais une vie éventuellement bondissante qui ne porte pas ombrage à l'expression spirituelle, à ce hiératisme indispensable. C'est cette alliance d'apparents contraires, de la légèreté et de la profondeur que réussit admirablement Alain Meunier avec un archer aérien qu'on ne peut qualifier que de magique tant il caractérise chaque pièce avec naturel, conjuguant la danse et la poésie dans la plus douce lumière que distille son superbe instrument Milané de 1721. Je me suis permis de citer cette critique d'Hervé Penven parce que la plupart des journalistes n'ont pas vraiment compris l'orientation de votre interprétation.
Alors, si j'avais pu avoir le talent d'écrire un texte en hommage à ce que j'avais fait, j'aurais bien aimé pouvoir écrire ça. Parce que c'est le plus bel hommage qu'on puisse me faire par rapport à ce que j'ai voulu dire. C'est pas seulement que c'est élogieux, bon, c'est vrai que c'est formidablement élogieux de ce point de vue-là, pour moi c'est émouvant, mais ce qui me touche énormément, c'est qu'il vise juste par rapport à ce que j'ai voulu tenter de faire entendre. Ce sont des suites de danse. J'ai entendu toute mon enfance, et encore maintenant, j'entends parler d'Everest, j'entends parler de Bible, j'entends parler d'Himalaya, des violoncellistes. Et moi, j'ai envie de dire non, ce sont des exercices quotidiens, des exercices spirituels quotidiens. Voilà, humblement, tu te mets au boulot, tu fais ton travail. Mais ce sont des suites de danse. Donc, il faut entendre que ça romandissait. Je ne suis pas du tout dans la lignée de Casals, parce qu'on ne peut pas.
Non, dans la reconnaissance.
Mais je suis dans la reconnaissance de ce qu'il fait, lui. Il nous joue des suites de danse, contrairement à ce qu'on dit, oui, c'est romantique, etc. Mais je continue à penser que les oreilles, c'est un métier. Et que tout le monde n'est pas capable d'entendre. Et dire Casals, c'est romantique, ça ne veut rien dire. Écoutons Casals, qu'est-ce qu'il nous raconte? Donc, pour moi, il m'a raconté des histoires de danse.
Alors, nous allons écouter une personne qui souhaitait laisser un petit témoignage et qui avait envie de vous raconter quelque chose.
D'une Bourgogne froide à l'extérieur, mais où il fait chaud dans nos cœurs, je veux rendre hommage à Alain Meunier. Alain est un violoncelliste talentueux, émouvant, séduisant, humaniste, et dont le sourire et la gentillesse associés à l'art du violoncelle nous font un bien fou à l'oreille, à l'âme et à l'esprit. Merci pour ton amitié, mon cher Alain.
Vous reconnaissez?
Ben oui, quelle merveille.
Hein? Pierre-Henri Gager?
Ben évidemment.
Hein? Que vous avez beaucoup enregistré. Alors, on va enchaîner, on va en profiter pour écouter pendant quelques minutes le deuxième mouvement de la cinquième suite allemande, et puis on vous retrouvera tout de suite après. Voilà, extrait du deuxième mouvement de la cinquième suite pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach, enregistré à la Guayotte, à Vosne-Romanée, avec le concours de notre ami Aubert de Villene. Vous savez, Alain Meunier, que la tradition veut que pour chaque invité, le professeur Pierre Magnard signe un portrait. Un portrait sans concession, un portrait souvent difficile à comprendre pour les invités. Et donc, à propos de votre interprétation des suites, il m'écrit ceci. Alain Meunier ne cherche pas l'origine des suites de Jean-Sébastien Bach dans le commencement, mais dans un instant indéfiniment repris, dans une immobilité qui règle le mouvement, une sorte de progrès involutif dans l'infinie répétition du geste que la durée ne peut contenir. Sa vertu est d'assujettir les contraintes à une commune alliance, non qu'il s'agisse d'en pondérer les difficultés, mais d'en accuser le prolongement. Un jeu qu'aucune période ne peut contenir, restitué dans une grave jovialité, désintoxiqué du détournement vers le spectaculaire pour satisfaire les petits estomacs digestion rapide. En ce sens, tout son art, tout l'art d'Alain Meunier est contenu dans cette petite réflexion de Pascal. Tu pourras remarquer une espèce de paradoxe que pour rendre le mouvement de l'opération simple, il a fallu que la machine ait été composée d'un mouvement plus composé. Je vais vous répéter, parce que ça, je crois que c'est une phrase qui pourrait vous définir. Elle est fondamentale pour moi dans l'image que j'ai de vous. Tu pourras remarquer une espèce de paradoxe que pour rendre le mouvement de l'opération simple, il a fallu que la machine ait été composée d'un mouvement plus composé.
Et je veux dire, je reste sans voix, parce que entre le témoignage d'Hervé Penven et puis ce témoignage de ce portrait de Pierre Magnard, que pourrais-je imaginer de mieux, de plus beau, de plus... et qui secrètement comble mon désir de tenter de faire. Voilà. Et je suis vraiment, vraiment ému et presque interdit de penser qu'on a pu lire cela dans ce que je propose. Merci Pierre Magnard.
Est-ce qu'il y a quelque chose d'impudique à parler de cette façon de restituer? C'est-à-dire que c'est quand même une mise à nu de raconter aussi peu, avec autant de délicatesse, de pudeur, alors qu'on a beaucoup à dire. Et comme, alors moi, j'ai traduit les propos de Pierre Magnard en disant que plus on exprime l'essentiel, et moins on a besoin de faire le pitre.
Moins on a besoin d'images.
Voilà, on est...
En
on
quelque
est...
sorte, pour répondre au goût du jour. Hein? Alors, ce que je pourrais dire, c'est que, à propos de la pudeur, nous sommes des êtres par nature impudiques, puisqu'on a le culot d'aller sur scène et de dire « écoutez-moi ». Alors, on peut y aller aussi en tentant de dire « écoutons », ce qui est déjà un tout petit peu différent, c'est-à-dire essayant d'écouter ensemble l'émerveillement que peut nous procurer telle ou telle œuvre de Bach, de Beethoven, de Boulez, de n'importe qui, en fait, d'un créateur que nous entendons essayer de restituer. Et donc, en ça, c'est déjà impudique. Mais être impudique ne veut pas dire être toujours à poil et toujours tout faire voir.
Ça ne veut pas dire s'exhiber.
Ça ne veut pas dire s'exhiber. Et il y a, dans cette impudeur à vouloir être là, il y a un être qui se dévoile, mais peut-être plus que il ne se dévoile pas, il dévoile selon moi, alors c'est peut-être commode de dire ça, il dévoile selon moi tout ce qu'a fait naître en lui l'œuvre à laquelle il est confronté. Et c'est pour moi le grand miracle de l'art et de la, entre autres, de la musique, puisque c'est ce que je connais le mieux, c'est de nous apprendre. C'est pas nous qui donnons, qui enrichissons une œuvre. C'est l'œuvre qui nous enrichit au point de pouvoir la restituer avec quelquefois un visage nouveau. On n'arrive pas devant une œuvre en disant ben, « je pense que ça doit être joué comme ça », ce qui est assez fréquent d'ailleurs, on commence par là. Il faudrait avoir la modestie de commencer par ne rien savoir, n'avoir aucune espèce d'idée, surtout pas avoir d'idée, et puis se laisser bouffer par elle, et donc se laisser nourrir, et peut-être après, effectivement, avoir l'impudeur de livrer notre pudeur.
J'aimerais que vous m'aidiez à résoudre un problème auquel je suis confronté depuis quelque temps. Camille Thomas, la nouvelle muse du violoncelle chez Deutsche Grammophon, a écrit « Je suis allé jouer au musée des arts florissants. La musique qui a jailli était comme une renaissance. Après, je suis allé au château de Versailles, qui a connu deux guerres mondiales, des pandémies, dont la splendeur m'éclabousse. Je suis monté sur mon toit pour mes voisins, le personnel soignant. Être sur un toit et prendre de la hauteur apporte de la plénitude. On s'élève, on a l'impression d'être près du ciel. » Gauthier Capuçon ajoute « J'adore l'aventure et faire des choses folles, comme jouer au sommet d'une montagne enneigée à 3500 mètres ou sur la tour Eiffel. » Suffit-il vraiment de monter sur un toboggan pour revendiquer autant d'élévation et de hauteur? Je pensais que cela venait de l'intérieur et d'une grandeur liée à l'interprétation et pas aux ascenseurs que l'on emprunte pour monter des étages. Je suis troublé par cette course à l'altimètre. Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est quelque chose d'assez propre à notre époque. Alors moi, je dois dire, quand je vois de la neige, je prends ma pelle et je refais le chemin. Dans l'Aubrac, dans l'Aveyron, ou quand on se réveille un matin et puis qu'on ne peut plus sortir, on ne peut plus ouvrir sa porte, on prend sa pelle et on refait le chemin. Bah, finalement, pour moi, la musique, c'est ça, c'est prendre sa pelle et faire le chemin, plus ou moins adroitement. Alors effectivement, on peut rêver d'aventure, on peut rêver de jouer je ne sais quelle méditation ou quel rêve sur l'aile d'un Boeing ou sur l'aile d'un Airbus. On peut rêver d'être sur un toit, j'ai un copain qui a un garage et je peux monter sur sa terrasse, aller jouer du violoncelle. Est-ce que j'en jouerais mieux? Est-ce que je serais mieux entendu? Est-ce que je m'entendrais mieux? Mais quelquefois, je suis dans 3 mètres carrés, ça me va très bien.
Alain Meunier, avant que je prenne un coup de pelle sur la tête, nous arrivons au terme de notre mission des grands entretiens. Nous allons nous quitter avec le début du prélude de la 5e suite de Bach. Je vous remercie beaucoup d'être venu nous rendre visite dans nos studios.
C'est moi qui vous remercie infiniment. Merci, vraiment, c'était cadeau.
Thank you. Thank you.